Bonsoir à vous et puis bienvenue pour ce premier mardi d'éthique publique de l'année universitaire qui s'ouvre. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir ici et d'autant plus que nous mettons en œuvre une nouvelle formule pour ces mardis d'éthique publique, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas seulement des experts qui sont là pour éclairer des sujets d'actualité, mais il y a aussi deux étudiants, ce soir Miranda et Louis, qui vont aussi apporter leur réaction à la question d'actualité dont on va parler ce soir. Voilà, donc c'est une formule qu'on essaye. On s'est dit que sans doute la parole des étudiants permettait d'apporter des réactions, on pourrait dire, assez fraîches à l'actualité. Voilà. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils reçoivent les choses? Quelles questions ça fait surgir pour eux? Et aussi, comment ça rejoint leur expérience, tout ça? Voilà. Et en même temps, on s'est dit qu'on avait besoin aussi de faire appel à des experts pour pouvoir, creuser un petit peu les questions. Voilà. Donc voilà cette nouvelle formule. Je remercie beaucoup les participants de ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà.
Merci beaucoup, Étienne. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces mardis d'éthique publique dans une nouvelle configuration. Et je vais présenter le sujet que nous avons retenu ce soir, et puis ensuite passer la parole aux divers intervenants. Et bien sûr, vous aurez à votre tour la possibilité de débattre avec les orateurs présents à cette tribune dans une deuxième partie. Alors le thème retenu ce soir a été énoncé sous forme de question. Choisir sa mort, un choix comme un autre, point d'interrogation. Le 13 septembre dernier, la presse annonçait la mort de Jean-Luc Godard, sans préciser les circonstances de ce décès. Peu de temps après, des proches du cinéaste faisaient savoir qu'il avait eu recours au suicide assisté, autorisé en Suisse. Cet événement a suscité émoi et intérêt en France, non seulement en raison de la notoriété de l'artiste, mais aussi parce qu'il survenait à un moment où la question de la fin de vie était réinscrite à l'agenda politique par le président de la République, Emmanuel Macron. Le même 13 septembre, coïncidence, en effet, le Comité consultatif national d'éthique a rendu public un avis dans lequel il estime qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir. Et ainsi, il ouvre la porte à une rupture dans l'accompagnement de la fin de vie en France. Alors que la loi Claeys-Leonetti de février 2016 interdit l'euthanasie, mais prévoit la possibilité de recourir à, je cite, « la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes malades dont le pronostic vital est engagé à court terme et avec arrêt de tous les traitements », le Comité consultatif national d'éthique énonce les conditions strictes dans lesquelles une personne pourrait être accompagnée activement dans sa volonté de mettre fin à ses jours, donc le suicide assisté, ou de faire appel à un médecin pour lui donner la mort. Le texte marque un tournant pour le comité consultatif. Dans son précédent avis sur le sujet, en 2013, il avait estimé dangereux pour la société que des médecins puissent participer à donner la mort. La loi de 2016 avait tenu compte de cette position. Le 13 septembre dernier, toujours, à la suite de la publication de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, l'Élysée a aussitôt annoncé que serait constituée en octobre une convention citoyenne dont les conclusions seront rendues en mars 2023. Cette convention sera organisée par le Conseil économique, social et environnemental. Elle se nourrira d'autres travaux et concertations menées parallèlement avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier avec les professionnels. Quels sont les termes du débat sur cette question à la fois difficile et cruciale de la fin de vie? La voie choisie par Emmanuel Macron est-elle la bonne? Et que convient-il d'attendre de la Convention citoyenne? Que nous montrent les situations vécues en Belgique et en Suisse où l'euthanasie a été légalisée? Autant de questions auxquelles nous vous proposons de réfléchir ce soir, en compagnie de Miranda Cartier, qui est infirmière, étudiante en philosophie et théologie au Centre Sèvres. Louis Tonneau est jésuite, étudiant belge en philosophie et théologie au Centre Sèvres et membre du réseau international Catholic Voices. le docteur Perrine Garnier, médecin et médecin à la maison médicale Jeanne Garnier, et Agatha Zilinski, est docteur en philosophie, maître de conférence habilité à diriger des recherches au Centre Sèvres. Je vais donner d'abord la parole à Miranda Cartier, qui va nous faire voir, qui va nous exposer les contradictions entre conviction et réalité du terrain auxquelles elle s'est trouvée confrontée en tant qu'infirmière dans des unités de soins palliatifs.
Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous. Donc je suis Miranda, j'ai 33 ans, infirmière depuis 2012. J'ai fêté une décennie en tant qu'infirmière. Et j'ai un enfant de 3 ans. Je suis laïque mariée avec un enfant de 3 ans. Et donc en tant qu'infirmière, j'ai beaucoup exercé en médecine interne, urgence, médecine gériatrique, EHPAD. Et en soins palliatifs, notamment, ainsi qu'en chirurgie gynécologique, où j'ai été infirmière consultation d'annonce. Donc, les infirmières consultation d'annonce sont ont même des entretiens avec les patients auxquels on annonce des pathologies très graves, parfois incurables. Donc voilà, on les accompagne dans cette annonce. De cette maladie, de ces traitements lourds et peut-être de l'acceptation de la mort. Au fil des années, tout au long de ma carrière, j'ai bien vu l'évolution de la place des patients dans le système de soins. Notamment, cette avancée a été mise en place grâce à la loi Kouchner en 2002, où on a vu la charte des patients, le droit, les devoirs des patients émerger. Et donc, vraiment, les patients sont, même jusqu'à aujourd'hui, on continue vraiment à mettre les patients au cœur de notre système de soins, au cœur de leur système de soins. Et c'est pourquoi je trouve que ils s'expriment de plus en plus, on s'exprime plus dans notre parcours et l'expression du désir de la mort va avec. C'est-à-dire que les patients n'ont plus peur d'exprimer leur fatigue, leur désarroi face à leur fin imminente. Ils n'ont pas peur de nous dire je souhaite en finir. Depuis 2012 que je suis infirmière, donc j'avais 23 ans, il n'y a pas une année où un patient ne m'a pas exprimé son désir de mourir ou son désir que je l'aide à mourir. Voilà, c'est une moyenne plutôt basse. Alors, c'est lié au fait que je travaille dans des services où je rencontre des patients en grande souffrance et au terme de leur vie. Mais voilà, le constat est là. 10 ans, pas une année où il n'y a pas une année où j'ai pas eu au moins une demande d'en finir ou qu'on aide le patient à mettre fin à sa vie. Je suis donc confrontée à un choc entre mes valeurs chrétiennes. Tu ne tueras point, c'est clair, c'est très clair dans ma tête, qui vont aussi avec mes valeurs en tant que soignant, puisque nous sommes là pour promouvoir la vie, on y est très attaché. Vous l'avez bien expérimenté, entre guillemets, pendant ces confinements. Tout ce qui a été mis en place, c'était aussi pour préserver la vie. Voilà, donc on activement, il n'est pas concevable pour nous en tant que soignants de faire autre chose que préserver cette vie. Donc un choc entre mes valeurs chrétiennes, mes valeurs soignantes et la réalité. Parce qu'il y a une réalité qui est là, qu'on ne doit pas nier. Il y a des patients qui sont en très très grande souffrance psychologique et physique, qui l'exprime, et on ne peut pas dire, et on ne peut pas faire fi de cela. À partir du moment où une personne exprime quelque chose, on ne peut pas nier la demande ou la souffrance qu'on en perçoit à travers cette demande. Quelle réponse apporter à ces demandes? Voilà, je vous ouvre les mains comme ça. On est assez démunis, même si très clairement, les soins palliatifs, on avance vers des systèmes qui sont on fait de plus en plus attention au confort du patient, à ce qu'il soit moins douloureux, à ce qu'il soit entouré, famille ou pas famille, soignant. Voilà, on est vraiment dans ce souci-là de faire attention à cette fin de vie. Mais il demeure encore des patients qui demandent à mettre fin à leur jour. Et parfois, ce qui est le plus étonnant, ce que je vois émerger ces dernières années, des patients très jeunes, des patients beaucoup, parce que moi j'ai travaillé en gynécologie, 40 ans, atteinte d'un cancer incurable et qui sont très cortiqués, très déterminés et qui expriment vraiment leur volonté de mettre fin à leur jour et de ne pas vivre, de ne pas se projeter dans une fin horrible ou douloureuse. Donc il y a bien entendu les patients qui sont âgés et puis il y a de plus en plus de patients qui sont jeunes qui expriment aussi ce désir. En soins palliatifs, j'ai travaillé sur deux niveaux différents, les unités de soins palliatifs qui sont à 100% dédiées à la prise en charge des patients en fin de vie ou des patients qu'on souhaite qu'ils soient confortables. Mais aussi, j'ai travaillé aussi dans des services où il y a des lits dédiés en soins palliatifs. Et ça, c'est vraiment très différent parce que les services où un petit peu on a 50% de médecine et le reste, ce sont des lits dédiés, il faut être très clair, en tant que soignant, on n'est pas disponible à 100% pour pouvoir s'occuper correctement des patients qui sont dans ces lits dédiés en soins palliatifs. Et donc, ce que je veux dire à travers ce point-là, c'est que d'abord, il me semble, avant de parler de la légalisation de l'euthanasie, peut-être on devrait déjà regarder le développement de ces unités de soins palliatifs qui sont vraiment pas assez développées en France. Actuellement, il y a 26 départements où il manque des unités de soins palliatifs. Il y a aussi tout le système de réseau à domicile, le maintien à domicile des patients, le soutien aux familles qu'il faut réellement développer, soutenir, ainsi que les équipes soignantes qu'il faut vraiment soutenir dans cette démarche-là. Et donc, c'est vraiment la première étape, à mon sens, le premier saut qu'il faut faire pour pouvoir aborder dans son ensemble cette question-là. Aujourd'hui, on fait un peu ce que j'appelle de l'économie de bout de chandelle, où on a des fusions de services et on est, à notre grand désarroi, pas assez disponible, pas assez à 100% avec les patients qui en ont besoin et qui expriment leur désarroi et leur douleur face à cette fin de vie qu'ils ne conçoivent pas comme cela. Si la loi passe, nous allons probablement vers une aide active à mourir pour les patients. Emmanuel Macron a insisté en disant que ce serait plutôt pour les patients en fin de vie à court terme ou les patients en perte d'autonomie. Et donc, l'idée serait que on donne la mort à ces patients-là qui ne sont pas en capacité de se donner la mort eux-mêmes. L'accès légal à l'euthanasie pour ceux qui ne peuvent le faire, est-ce une ouverture au suicide assisté? C'est une question que je pose là. Au final, je suis pas très très, disons, je n'ai pas un avis très net sur la question, puisque, comme je vous disais, je suis vraiment tiraillée par cette réalité à laquelle je suis confrontée, traversée. La souffrance que je perçois des patients me tiraille, souffrance psychologique, souffrance physique. Et ce sont des souffrances qui sont bien réelles, auxquelles on ne peut fermer la porte. Je les accompagne sur ce chemin qui est parfois désertique. Mais c'est aussi un chemin désertique pour moi parce que je me sens un peu démunie face à leurs demandes. Il faut bien entendu, à mon sens, entendre leurs souffrances. Mais si accepter de donner la mort à un patient, à mon frère, lui ôter la vie, pour moi ce serait l'équivalent de jeter l'éponge. Jeter l'éponge en tant que soignante, jeter l'éponge en tant que chrétienne. Ça voudrait dire aussi un manque de foi de ma part, un manque de foi en la vie si précieuse, une vie précieuse, et on s'en rend compte dans l'adversité. Alors ce sont des belles paroles, bien entendu, mais j'y crois fortement, et c'est pour ça que ces situations me traversent et que ces situations me tiraillent au point de me dire que je ne serai pas des personnes qui participeront à cette aide active à mourir pour les patients. Merci.
Merci beaucoup, Miranda, pour ce témoignage extrêmement concret et puis pour toutes les questions que vous posez à partir des contradictions que ce sujet suscite inévitablement entre un métier, une conviction, des valeurs qui peuvent même n'être pas spécifiquement chrétiennes. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces points dans le débat. Louis, vous avez la parole. Vous connaissez, vous, le cas de la Belgique où la légalisation de l'euthanasie est déjà maintenant assez ancienne, et je crois que vous souhaitez évoquer ce que vous avez pu observer en Belgique et les questions que cela a pu vous poser.
Exactement. Le 31 mars dernier, Emmanuel Macron a dit lors d'un déplacement en Charente-Maritime « Je suis personnellement favorable à ce que l'on évolue vers le modèle belge ». Alors j'ai pensé qu'il était intéressant de vous présenter en quoi consiste le modèle belge, puisque l'euthanasie a été partiellement dépénalisée en Belgique depuis 20 ans, depuis une loi de mai 2002. Je dirais que le modèle belge, pour faire simple, c'est un modèle boiteux. Un modèle boiteux a une triple enseigne. Premièrement, c'est un modèle qui n'a pas tenu ses promesses. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Deuxièmement, c'est un modèle qui repose sur 5 conditions dans lesquelles l'euthanasie peut être pratiquée en toute légalité. 5 conditions qui devaient constituer des bases intangibles, des balises, des conditions strictes, comme on aime souvent le dire, qui, au fur et à mesure des années, se sont assouplies, éventées, vidées de leur substance. Et troisièmement, enfin, c'est une loi qui n'est pas contrôlée, pour laquelle vous avez un contrôle de façade totalement ineffectif. J'y reviendrai aussi dans la suite du discours. Premièrement donc, 5 conditions pour une dépénalisation de l'euthanasie en Belgique, conformément à la loi de 2002. Première condition, on nous avait vendu que ce serait exclusivement pour des personnes majeures. En 2014, le législateur change la loi. Désormais, l'euthanasie en Belgique est accessible aux mineurs, avec avis d'un psychologue et l'accord des parents. On a donc euthanasié depuis lors 3 enfants, le plus jeune ayant 9 ans. Deuxièmement, des affections graves et incurables. Ces affections pouvant être tant de nature psychiatrique que physique. On a donc euthanasié des autistes ou des dépressifs. La dépression étant discutée quant à son caractère incurable par bien des psychologues et des psychiatres, mais peu importe, la dépression est une affection grave et incurable. Troisième condition, il faut que cette affection provoque une souffrance constante, insupportable et inapaisable. Cette fois-ci encore, soit sur le plan psychique, soit sur le plan physique, soit les deux. Il existe donc en Belgique une commission chargée de l'évaluation et du contrôle a posteriori des actes euthanasiques. Cette commission a dit dans l'un de ses rapports, puisqu'elle fait des rapports pour le gouvernement régulièrement, elle a dit le caractère insupportable est en grande partie d'ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, de ses valeurs, etc. Autrement dit, celui qui détermine s'il est dans les conditions pour accéder à l'acte euthanasique est celui qui demande cette euthanasie. Elle a également dit le patient doit bénéficier d'une autonomie, a le droit de refuser un traitement de la douleur et en même temps de demander l'euthanasie, ce qui signifie que le patient crée lui-même une condition ou répond lui-même à une condition pour accéder à l'euthanasie. Enfin, autre exemple sur cette troisième condition qui donc, comme les autres, finalement, s'estompe à la limite de ne plus exister, 20%, je dis bien 20% des cas d'euthanasie en Belgique sont réalisés pour polypathologie. Une polypathologie, c'est une combinaison d'affections chroniques liées à l'âge et qui, ensemble, aboutissent à une perte d'autonomie, voire à une exclusion sociale. Je vous donne quelques exemples. Ceux qui sont concernés dans la salle peuvent lever la main. Baisse de la vue. Trouble de l'audition. Incontinence, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Trouble de la marche. Voilà donc un exemple de polypathologie qui, si ensemble et subjectivement sont perçues comme menant à l'exclusion sociale, vous permettent de répondre à cette troisième condition, souffrance constante, insupportable et inapaisable. Quatrième condition, demande volontaire, réfléchie et répétée d'euthanasie. Sur le caractère répété, depuis 2020, il y a eu deux modifications législatives à la loi de 2002, une en 2014, une en 2020. Depuis 2020, vous pouvez faire rédiger des directives anticipées d'euthanasie qui permettront aux médecins de pratiquer l'euthanasie dans l'hypothèse où vous seriez inconscient au moment où on la pratique. Le caractère répété est donc un peu limité. Sur le caractère volontaire, il y a en Belgique de plus en plus une forme de pression sociétale sourde, et l'on parle dès lors de plus en plus d'euthanasie altruiste. Il s'agit de ne pas être égoïste, de ne pas être une charge pour sa famille, pour la société, et donc de mettre fin à sa vie quand il est temps. Évidemment, personne ne vous le dit comme cela, mais ça n'a pas empêché, par exemple, un président de parti l'année dernière de dire: pour mettre fin au problème des pensions, l'euthanasie serait une bonne solution. Cinquième condition enfin, il vous faut l'accord du médecin. Évidemment, si ce médecin est pro-euthanasie, l'accord est facile à obtenir. Si ce médecin ne l'est pas, vous avez le droit, là aussi depuis la loi de 2020, d'exiger du médecin qu'il vous renvoie soit vers un autre médecin, soit, à votre choix, vers, je cite, un centre spécialisé dans le droit à l'euthanasie. Autrement dit, si le médecin n'est pas d'accord, allez voir le centre spécialisé, il vous trouvera toujours quelqu'un pour être d'accord avec vous. Donc cinq conditions qui, finalement, par la pratique, sont presque toutes réduites à peau de chagrin. Enfin, mon dernier point, pour rester dans les 7 minutes qu'on m'a imparties, c'est la question du contrôle. Il y a donc une commission de contrôle et d'évaluation de la loi qui se réunit plusieurs fois par an pour vérifier si les euthanasies qui ont été pratiquées l'ont été dans les conditions requises par la loi. Ces contrôles sont exclusivement a posteriori. Premier point. Deuxième point, La Commission reconnaît elle-même qu'elle n'a pas les moyens de contrôler les déclarations, puisqu'elle se base exclusivement sur ce que le médecin a déclaré. Elle n'a évidemment pas la possibilité de contrôler les euthanasies qui auraient été réalisées hors de la loi. Et elle tranche en moyenne 200 dossiers par tranche de 3 heures, ce qui vous fait moins d'une minute par dossier. Cette commission est composée pour en grande partie d'initiateurs de la loi, de personnes représentant des groupes d'intérêt, c'est-à-dire des lobbies favorables à l'élargissement de l'euthanasie, ou de médecins euthanasieurs, si vous me permettez ce néologisme. Ce matin même, la commission la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique pour contrôle inopérant de la loi réglementant l'euthanasie. Autrement dit, je ne suis pas le seul à le dire, même la très libérale Cour européenne des droits de l'homme reconnaît qu'il y a un problème en Belgique. Dernier élément enfin, ce qui me permettra de rester dans un délai acceptable d'une minute de dépassement de délai. La loi nous avait promis deux choses. Premièrement, mettre fin aux euthanasies clandestines. Mon expérience personnelle, alors je ne suis pas médecin, mais simplement, disons, de citoyen, c'est que de plus en plus de personnes s'arrangent avec les médecins, y compris en dehors des règles, en dehors des conditions prévues par la loi, pour pratiquer une euthanasie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi a créé la demande. La loi a modifié le rapport des gens à l'euthanasie, et donc les gens se sentent libres, sans pression morale, de procéder à une euthanasie. Enfin, la loi avait prévu que ce soit une solution d'exception. Entre 2003 et 2018, le nombre d'euthanasies annuelles a été multiplié par 10. Autrement dit, nous sommes passés de 235 en 2003 à 2700 en 2018. En 2021, et c'est le dernier chiffre que je vous donnerai, une personne sur 40 en Belgique est morte par euthanasie, ce qui représente 2,5% de la population. Voilà pourquoi le modèle belge est un modèle boiteux. Il ne répond pas aux promesses que la loi avait faites. Les conditions strictes sont, comme toujours, des conditions d'apparence strictes ou qui se délitent totalement au fur et à mesure de la pratique. Et enfin, la commission de contrôle est partiale, inopérante, comme le disait la Cour européenne des droits de l'homme ce matin même.
Merci beaucoup, Louis, pour ces informations très précises qui échappent, je pense, parler au nom de l'assistance aussi, dans la plupart des cas, à notre connaissance. Et merci d'avoir respecté les délais, mais vous aurez à coup sûr l'occasion de réintervenir dans la suite du débat. Alors, nous allons maintenant avoir le point de vue sur les deux témoignages que nous venons d'avoir, témoignages et reportages que nous venons d'avoir. Celui d'un médecin, celui d'une philosophe. Et ensuite, eh bien, vous pourrez peut-être prendre un temps pour débattre les uns avec les autres, vous poser mutuellement des questions, nous verrons, avant de passer la parole à la salle. Donc, docteur Garnier, vous avez la parole pour, un petit quart d'heure.
Merci. Alors, je vais essayer de répondre, mais de répondre à partir de mon expérience. Effectivement, l'exposé de mon voisin me terrifie, et vous comprenez bien pourquoi. Une des questions était l'accompagnement de la souffrance et de la fin de vie par les soins palliatifs est-il suffisant ? Et c'est mon expérience que je vais vous partager. Je travaille à la maison médicale Jeanne Garnier, une maison de 81 lits, en plein cœur de Paris, avec un jardin, une chapelle, une aumônerie, une centaine de bénévoles. Et je suis bien consciente de pratiquer dans un endroit très privilégié. Je sors d'une expérience où j'ai accompagné ma maman dans un service de cardiologie, où le mot de palliatif n'était pas acceptable, ou même pas entendable. Votre mère n'est pas palliative, ses prises de sang vont mieux. Depuis 8 ans, je découvre cette mission d'accompagnement, et je ne suis pas grand-chose face à un mystère bien plus grand que moi. Nous sommes là pour être présents, soulagés, accompagnés, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Je pense que la réponse, c'est vraiment derrière ce mot d'équipe pluridisciplinaire. La maison médicale est un espace pour permettre à toute personne de vivre quelques jours, quelques semaines, avant son passage vers la mort. Un espace géographique, mais surtout un espace de temps. Cette dimension du temps, elle est primordiale. Laisser le temps à une personne d'accepter la maladie, le pronostic, et aussi à sa famille. Le temps d'apaiser les tensions, les colères, mais pas toujours. Le temps des adieux, des dernières paroles. Nous sommes là pour soigner, pour soulager, pour traiter les symptômes d'inconfort. Nous sommes convoqués à une compétence clinique et technique. Tous les moyens sont bons. Les traitements traditionnels, alternatifs, l'aromathérapie, la musicothérapie, les bénévoles, l'aumônerie. Claire Fourcade disait, parce que nous sommes plus intelligents à plusieurs que tout seul, les soins palliatifs sont une éloge de l'interdisciplinarité. Oui, il y a des situations difficiles, il y a des situations où l'on peut douter, des situations qui nous bouleversent, des situations qui nous questionnent. Mais avant de parler de toutes ces questions difficiles, je voudrais témoigner que ces situations sont rares, bien que plus fréquentes depuis quelques mois. Monsieur B est hospitalisé récemment pour un séjour de répit pour une maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Il est paralysé, respire avec une machine, dépendant pour tous les gestes de la vie quotidienne. Il y a un an, il faisait des randonnées avec sa femme. Brutalité de la maladie, évolution rapide, une autonomie qui diminue jour après jour. Quand la maladie s'est déclarée, il a songé au suicide, assisté en Suisse. Et puis, il témoigne que la maladie lui a fait découvrir une autre forme de tendresse, un autre sens de la vie. Grâce à l'accompagnement dont il bénéficie, famille, amis, auxiliaires de vie, il souhaite poursuivre son chemin et trouve sens à ce qu'il vit. Son témoignage de vie bouleverse beaucoup de ceux qu'il rencontre. Oui, la prise en charge palliative à domicile est possible. Ce séjour de répit a permis à ses accompagnants un temps de repos, c'est aussi notre mission. Ce patient m'a posé une question, et si je demande l'arrêt de la machine qui me permet de respirer? La loi actuelle permet à tout patient de demander l'arrêt d'un traitement qui maintient artificiellement la vie. Et oui, nous devons d'accompagner toute demande pour le soulagement de la douleur. Le débat sociétal de la fin de vie n'est pas sans conséquence dans notre pratique. Deux types de questions. Vous êtes sûr, docteur, que vous n'accélérez pas la mort? S'il dort, c'est parce que vous lui donnez de la morphine. Les traitements par morphine font encore beaucoup peur. Mais aussi les questions sur l'alimentation, l'hydratation. Nous sommes appelés à écouter toutes ces peurs, à expliquer. L'écoute permet, dans la majorité des cas, d'apaiser les situations. Une femme d'un patient est effondrée. L'état de santé de son mari est stable. Je ne comprends pas pourquoi elle est effondrée. Je m'assois auprès d'elle, elle m'explique. On a donné un traitement à son mari. Et elle a cru qu'on commençait à le faire dormir. Et pourtant, je vous fais confiance, mais on entend tellement de choses. Beaucoup de fausses idées sur les soins palliatifs dans un sens comme dans un autre. Peur que l'on accélère le moment de la mort, peur que l'on n'aille pas assez vite. Le deuxième type de questions sont celles liées à l'expression d'un désir de mort, qui peut s'exprimer de différentes façons. Un souhait d'accélérer, les demandes d'euthanasie ou de suicide assisté. Il n'est pas facile d'être confronté à ces demandes qui demandent beaucoup d'écoute, de temps, de patience pour ouvrir un chemin possible. Oui, nous sommes confrontés à ces demandes de mort, à ces désirs de mort dans des contextes singuliers. Mais le désir n'est pas forcément une demande. Il est rare d'entendre « je veux mourir » mais plutôt un désir de partir rapidement, que cela ne dure pas trop longtemps, ou l'expression d'une grande lassitude. Il existe peu de demandes d'euthanasie claires et nettes. Je voudrais juste clarifier certains termes, la sédation. La sédation, c'est une pratique de soins visant par des moyens médicamenteux à diminuer la vigilance afin d'atténuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable. L'intention du prescripteur est de soulager, et non de mettre un terme à son existence. La sédation peut être appliquée de façon intermittente, transitoire ou continue. Une sédation nocturne, par exemple. La sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, est une forme de sédation encadrée par la loi de Claes-Leonetti. Trois critères principaux, maladie grave et incurable, souffrance réfractaire, pronostic à court terme. Dans l'aide médicale à mourir, du rapport du CCNE, deux possibilités, l'assistance au suicide, qui consiste à donner les moyens à une personne de se suicider elle-même. L'euthanasie, un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable. Ces deux actes impliquent l'intervention d'un tiers, mais avec des degrés d'implication très différents. Dans le cas de l'assistance au suicide, c'est juste une prescription médicale. En cas d'euthanasie, c'est un médecin qui administre lui-même le produit. Je voudrais revenir sur une étude qui est évoquée dans le rapport du CCNE, qui a été faite à la Maison médicale Jeanne Garnier, à partir de 2157 dossiers. Le souhait de mourir était retrouvé chez 9% des patients, soit 195 patients. Les demandes d'euthanasie étaient retrouvées chez 3% des patients, 61 patients. À la fin, il persistait seulement 6 patients, une demande chez 6 patients. Ce chiffre de 6 patients n'est pas cité dans le rapport du CCNE. Ces demandes, ces désirs se rencontrent dans des situations très différentes. L'arrivée à la maison médicale Jeanne Garnier est synonyme pour beaucoup de patients d'une mort prochaine. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Madame M, 94 ans, atteinte d'une maladie nécessitant des transfusions régulières, elle décide d'arrêter les transfusions, elle arrive à la maison pour mourir. C'est ma dernière demeure. Pendant plusieurs semaines, son état est stable. Elle refuse d'aller au fauteuil, profite de la visite de ses enfants, petits-enfants. Et puis un matin, elle me demande c'est quand la piqûre pour que tout cela s'arrête. Je suis surprise de sa demande, mais je suis bien là pour mourir. Je lui réponds que ce n'est pas sûr et que la vie peut réserver des surprises. Nous avons pu parler de son devenir. Cette femme a accepté de cheminer, a été mise au fauteuil, a remarché et est partie en maison de retraite. Nous devons être attentifs à ces non-dits, à oser une parole pour dire que nous ne savons pas mais qu'ensemble nous pouvons avancer. Parfois les patients arrivent avec un désir de mourir qu'ils expriment par une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Ces demandes dès l'arrivée sont parfois confirmées par les équipes soignantes précédentes ou comprises comme telles par les patients et nous mettent en difficulté. Leur attente est qu'elles soient mises en œuvre dès leur arrivée. Certains patients arrivent avec une demande d'euthanasie liée à une certaine philosophie de la vie. Des personnalités qui, tout au long de leur existence, ont revendiqué ce droit à mourir quand et quand ils le souhaitent. Souvent des personnalités centrées sur la maîtrise, l'autorité, une certaine idée de leur liberté, l'épreuve de la maladie, la diminution de leur autonomie leur provoque une grande souffrance. Ils ne supportent pas l'idée de se voir diminuer progressivement sans aucune maîtrise sur ce qu'il arrive. Notre attitude est celle de l'écoute et d'essayer d'ouvrir une autre possibilité sans nier la souffrance. L'équipe soignante est souvent en grande difficulté, car souvent ils mettent en échec toutes nos tentatives de prendre soin, de soulager la souffrance. Il est souvent difficile d'isoler une souffrance existentielle de la globalité de la souffrance. Dans ces situations, lorsqu'une demande de sédation survient, il est difficile de rester à distance de leur demande d'euthanasie et de discerner si la demande de sédation est licite. C'est vraiment un travail d'équipe où nous réfléchissons ensemble de la meilleure façon d'accompagner la personne et ses accompagnants. Ces demandes de mort sont des appels à l'aide devant une souffrance trop difficile à supporter. Je voudrais souligner l'inconfort éthique qui résulte du passage d'une demande d'euthanasie à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, tant pour le médecin que je suis que pour toute l'équipe. Et pourtant, nous devons être attentifs à ces demandes sans jugement. Dans d'autres situations, malgré l'engagement des soignants, le recours à des traitements variés, l'expression de la souffrance est toujours présente et certains patients expriment un désir de mourir et que tout cela s'arrête. C'est souvent après un séjour de plusieurs jours en USP, et cela répond plus à une demande d'un arrêt de souffrance plus qu'un arrêt de vie. Il faut reconnaître que dans certaines situations qui sont rares, ces demandes surgissent souvent en toute fin de vie. Notre accompagnement ne fait pas disparaître toute souffrance. La relation de confiance est souvent présente et des alternatives thérapeutiques peuvent être proposées pour accompagner ces souffrances. Ce que je retiens, c'est l'ambivalence des demandes et leur variabilité dans le temps. Madame M, 70 ans, un cancer très évolué. Un séjour de plusieurs jours avec une dégradation progressive me demande à mourir. Faites quelque chose, docteur. J'entends sa demande, lui propose un traitement pour la détendre ou la faire dormir transitoirement. J'attends. Et dans la minute qui suit, elle me demande une mangue bien mûre. Quel est son désir ? Certaines demandes ne sont exprimées qu'à une certaine catégorie de soignants. Par exemple, jamais au médecin. Et l'inverse est vrai, quel en est le sens ? Parfois, les patients n'osent pas l'exprimer et c'est la famille ou les amis qui nous le demandent. Comment vérifier la véritable volonté du patient ? Peur de ne l'exprimer, pression de sa famille, impression qu'il est une charge pour sa famille. Ce qui me paraît essentiel dans toutes ces demandes, c'est que nous sommes protégés par la loi interdisant l'euthanasie. Cet interdit ouvre un possible autre, une invitation à une créativité et peut-être une assurance pour le patient qui peut exprimer ce désir, cet appel à l'aide sans que celui-ci soit possible. Devant toute demande de sédation profonde et continue, nous demandons toujours un temps d'évaluation, un temps pour faire connaissance avec la patiente et son entourage. Un temps pour proposer des alternatives thérapeutiques. Si la demande persiste, nous organisons une réunion de procédure collégiale. Tous les soignants sont présents, avec la présence d'un médecin extérieur. Nous vérifions que la demande correspond bien aux critères fixés par la loi. Tous les soignants sont invités à s'exprimer sur la situation. Mais la décision finale est médicale. Voilà, je vous ai partagé un peu de mon quotidien de médecin de soins palliatifs, ce que m'ont appris les soins palliatifs de ne pas vouloir tout maîtriser, reconnaître que cette souffrance d'autrui ne m'est pas indifférente, oser la présence, la parole, le silence, oser être là, avec ce que je suis, avec les moyens dont je dispose. Oser la rencontre avec cet être souffrant, même si je sais que je n'ai pas le pouvoir ni le savoir pour guérir la souffrance de l'autre. L'importance du travail d'équipe, où chaque membre a sa place. La semaine dernière, un agent d'entretien est venu me remercier. Il avait pu faire le ménage tranquillement pendant que je rencontrais le mari de la patiente. C'est vraiment un travail d'équipe. Et si une nouvelle loi était votée ? Au-delà de mes convictions profondes, je ne peux pas être une actrice d'une aide active à mourir. La mort ne pourra jamais être un soin pour moi. Je pense que la relation de confiance, d'alliance avec le patient sera profondément modifiée. Est-ce que le patient pourra être libre d'exprimer son désir de mort et moi-même pourrais-je l'écouter de la même façon ? Je vais m'arrêter. Je vais simplement reprendre le titre d'un article pour conclure de Claire Fourcade et de Jacques Ricot. L'euthanasie contredit les soins palliatifs. La réponse à la question du mal mourir en France est pour moi le développement de la culture palliative dans tous les services de soins et à domicile. Merci.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir exprimé beaucoup de doutes. Il est frappant de voir que les situations que vous vivez sont des situations de doutes permanents, continus, et qu'à cela, une réponse univoque semble totalement contradictoire, voire impossible. Alors, Agata Zielinski est philosophe, et je pense que ça, c'est des questions auxquelles on réfléchit beaucoup en philosophie, également sur cette question du titre de cette conférence ce soir, choisir sa mort. Est-ce que ça renvoie à notre humanité? Est-ce que les êtres humains que nous sommes ont la possibilité de choisir leur mort ou pas?
Alors oui, bien sûr, bonsoir. Je vais parler comme philosophe, mais je parle comme philosophe qui a été aussi longtemps bénévole en soins palliatifs. Donc je ne vais pas forcément vous faire des grandes théories avec les stoïciens ou Emmanuel Kant ou des gens comme ça, qui sont tout à fait valables pour chercher à répondre à nos questions. Mais je vais aussi, comme vous l'avez fait, parler un petit peu à partir du terrain. Je me suis dit, en vous écoutant, je me permets une remarque préalable. Ce fameux avis numéro 139 du Comité consultatif national d'éthique, comment vous nous avez rappelé là, ce qu'il dit tout au début, c'est que est éthiquement envisageable, il y a une voie pour une application éthique pour une aide active à mourir.
Oui, aide active à mourir.
Eh bien, je me dis, est-ce qu'on, avec cette expression d'aide active à mourir, est-ce qu'on n'est pas en train, vous savez, tous ces ressorts du langage qui viennent un peu aplatir, adoucir les réalités pour les faire passer plus facilement? Parce que je discutais de ça avec des soignants de soins palliatifs qui disaient, en riant un peu jaune, ils disaient, mais nous, en soins palliatifs, ce qu'on fait, c'est de l'aide aux personnes, on est actif et on les accompagne doucement vers la mort. Mais ça voulait dire, justement, on les tue pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, autrement dit, aide active à mourir, ok, c'est une expression, je crois, qui est utilisée par la loi canadienne, qui a ouvert il y a relativement peu de temps, aide médicale. D'accord. Ah oui, c'est ça, la vie fait une remarque là-dessus. Enfin, appelons un chat, une euthanasie, c'est une euthanasie, le suicide assisté, c'est du suicide assisté. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a un petit risque à masquer les choses derrière des expressions un peu adoucissant. Bon, pardon, c'était mon petit préalable. Je voudrais dire trois choses à propos de cette affaire de choix, parce que choisir sa mort, c'est un choix comme un autre. La première, c'est, en fait, qui réclame ce choix? Il me semble qu'on rencontre trois types de demandes ou trois catégories de personnes. De la part de qui on peut entendre « je préférerais mourir ». Où je voudrais que vous m'aidiez à mourir. Il y a les personnes qui sont gravement malades et en fin de vie. C'est la première catégorie de personnes. C'est comme dit le docteur Claire Fourcade que Perrine a cité plusieurs fois, qui est médecin en soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle fait une distinction entre ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir. Voilà, donc la catégorie des personnes en fin de vie, ce serait du côté des personnes qui vont mourir, c'est-à-dire pour qui la survenue de la mort est relativement proche dans le temps. Eh bien, ces personnes-là, les personnes malades dont la mort est relativement proche, il me semble que le cadre de la loi en France et que les soins palliatifs permettent de les accompagner et de les soulager. Permettent d'accompagner, même si docteur Garnier l'a bien dit, on peut pas tout soulager, on peut pas prétendre tout soulager. Mais il me semble que et la loi et la culture, la pratique, les compétences des soins palliatifs permettent que des personnes qui sont en fin de vie et qui souffrent soient la plupart du temps soulagées. Donc, pour ces personnes-là, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Vous me suivez? Après, deuxième catégorie de personnes, eh bien, il y a les bien portants. Donc, ceux qui peut-être pas veulent mourir, mais disent qu'ils veulent une loi qui leur permettrait de mourir quand ils le veulent. Donc ça, c'est ce que j'appelle la catégorie de personnes qui est dans la revendication du droit à mourir, les bien portants. Et je me dis, c'est quoi la motivation des bien portants à revendiquer une loi sur l'euthanasie et ou le suicide assisté? Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, je me suis rendu compte en faisant les trois catégories que je vais vous donner, qu'elles sont très évidentes, mais à ma connaissance, elles n'ont pas été étudiées en tant que telles, c'est-à-dire les motivations profondes de la plupart des personnes qui revendiquent le droit à l'euthanasie, il me semble que c'est pas vraiment documenté. Enfin, s'il y a des connaisseurs plus précis dans la salle, je compte sur leur parole tout à l'heure. En tout cas, les bien portants, et ça peut être nous, hein, C'est quoi nos motivations, c'est quoi leur motivation? Ben, la plupart du temps, c'est une peur de la dépendance, une peur d'un certain nombre de souffrances, c'est l'imaginaire hein, qui se met au travail, une peur de perdre l'image de soi, une peur de peser sur les proches, voire sur la société. Mais là, on est dans l'imaginaire. Donc vous voyez, il me semble que la plupart des revendications, elles sont finalement liées à des peurs pour soi. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Parmi les personnes bien portantes qui revendiquent un changement législatif, il y a aussi la part des personnes dont un proche a vécu une fin de vie difficile, qui s'est entre guillemets mal passée. Et c'est ça qui va influer, qui va être une des motivations pour dire « je ne veux pas que ça se passe comme ça pour mes autres proches, je ne veux pas que ça se passe comme ça pour moi, et donc il faut changer la loi ». Il me semble que là, sans doute pas pour toutes ces situations, mais pour une partie de ces situations, ce sont des situations qui n'ont pas rencontré les soins palliatifs, ou qui n'ont pas rencontré la culture des soins palliatifs. Donc pour des situations de personnes qui sont marquées par la mort d'un proche où ça s'est mal passé, la solution n'est pas d'abord de changer la loi, mais d'abord de développer les soins palliatifs, comme c'était dit tout à l'heure. Donc les personnes en fin de vie, les bien portants, et puis troisième catégorie, ce sont les personnes gravement malades, mais qui ne sont pas en fin de vie. Les personnes, alors par exemple, tu donnais l'exemple de la maladie de Charcot, ça peut être aussi des personnes qui ont un cancer qui provoque de grandes douleurs. Donc ce sont des personnes pour lesquelles la mort ne va pas survenir très prochainement et qui sont dans des conditions de vie qu'elles jugent insupportables. Il me semble que ce sont ces situations-là que l'avis 139 du CCNE classe sous la catégorie des situations où la mort va survenir à, je le cite, moyen terme. Et en fait, l'avis réfléchit, enfin, au cœur de la réflexion de l'avis, il y a ces situations-là. Comme disent certains, bah, dans les lois actuelles, il y a un trou dans la raquette, c'est pour des personnes qui, voilà, à qui on ne pourra pas proposer, par exemple, pour soulager leur souffrance, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parce que le décès n'est pas envisageable dans un temps proche. Donc, que proposer à ces personnes-là? Et c'est en pensant à ce type de situation que la vie ouvre une porte au suicide assisté. Alors, ces situations existent. Et pour un certain nombre de personnes, elles sont tragiques. Pour d'autres, elles sont vécues autrement que sur le mode tragique. C'est l'exemple que tu nous as donné de Monsieur B. Mais voilà, que faire pour les personnes pour qui c'est vécu sur le mode tragique? Ben, il faut réfléchir à ces situations-là. La seule remarque que je voudrais faire, c'est que ces situations existent, mais elles sont très minoritaires. Et donc la question que je pose, c'est est-ce qu'il faut légiférer pour des situations d'exception? Il me semble que la discussion dans les semaines, dans les mois qui viennent, elle pourrait aussi porter là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Enfin, une loi, elle n'est pas faite pour traiter des cas particuliers. Bon, je suis pas juriste, hein. Là encore, s'il y a des juristes dans la salle, on pourra discuter tout à l'heure. Voilà, ça c'était mon premier point sur qui réclame ce choix et au fond, qu'est-ce qu'on peut proposer comme type de réponse. Mon deuxième point, j'ai absolument pas regardé ma montre.
C'est une bonne minute.
Youhou! Mon deuxième point, c'est l'articulation des deux notions qui sont dans le titre de l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui prône la volonté d'articuler solidarité et autonomie. Donc solidarité, alors là aussi une remarque préalable, l'avis, il y a des choses très intéressantes dedans. Comme philosophe, je trouve qu'il, contrairement à beaucoup d'autres avis du CCNE, celui-ci est assez pauvre en termes conceptuels, en termes de définition de fond. En fait, il n'y a pas de définition de la solidarité, il n'y a pas de définition de l'autonomie. Voilà, de mon point de vue, je trouve que c'est un peu un manque, et sur des sujets aussi graves que ça, ça me paraît un peu léger. Bon, la solidarité, Ok, c'est de maintenir le lien, c'est de soutenir les personnes les plus vulnérables. C'est ce qu'on peut supposer à la lecture de la vie. Une petite question, c'est qu'à un moment donné dans la vie, surgit le mot fraternité, un peu comme un étayage à la notion de solidarité, sauf que c'est un paragraphe très court où il est dit qu'il y a deux facettes de la fraternité. Une facette qui consiste à être fraternel finalement en accompagnant et en répondant affirmativement à une demande de mort, et puis l'autre facette de la fraternité consiste à accompagner la vie jusqu'au bout. Il y a un très bon article qui est paru aujourd'hui, en tout cas sur Internet, sur La Croix, sur Internet, une tribune de Marie-Dominique Trébuchet, qui regarde un peu plus près cette affaire de fraternité. Je vous en recommande la lecture. Donc je déploierai pas ça, mais voilà, c'est simplement pour dire que cette notion de solidarité, elle me semble un peu pauvre dans la vie. Et la notion d'autonomie, elle est très souvent corrélée au terme de liberté, qui apparaissent, j'ai pas la mémoire des chiffres, hein, mais j'ai compté le nombre de fois où apparaît le mot solidarité et le nombre de fois où apparaissent les mots autonomie et liberté. C'est à peu près comme ça. L'autonomie, donc, elle est définie, elle est présentée comme la liberté de disposer de soi. C'est l'expression qui revient le plus souvent. Donc on voit bien que derrière, il y a effectivement cette idée que chacun devrait pouvoir être le propre juge de ce qui est insupportable dans sa souffrance et à partir de là se déterminer quant aux conditions de sa mort et quant à l'aide qu'il pourrait éventuellement demander pour mettre fin à ses jours. Donc on voit que la vie repose sur une définition de l'autonomie et de la liberté qui est, disons, c'est l'autodétermination, se déterminer par soi-même et pour soi-même. C'est une définition utilitariste de la liberté qui est tout à fait fondée. Et je pense que si vous faites un sondage dans la rue sur c'est quoi la liberté, la majorité des gens vont spontanément répondre c'est faire ce que je veux. Bon, ce qui est sous-jacent justement à cette réflexion-là. Mais là encore, je trouve que c'est pauvre et mon regret en tant que philosophe, c'est que cette définition-là ne soit même pas discutée dans la vie. Parce qu'il y a d'autres manières de définir la liberté. Par exemple, et ça rejoint tout à fait ce que mentionnait Perrine tout à l'heure dans ce qui se passe en soins palliatifs, une autre façon par exemple de définir la liberté, c'est la capacité d'ouvrir des possibles, la capacité de déployer des initiatives. Et ça c'est possible, même en fin de vie, même en toute fin de vie. Donc, vous voyez, cette liberté-là, la liberté d'ouvrir des possibles, c'est une liberté qui n'est pas centrée sur l'indépendance absolue, comme l'est la liberté comme autodétermination, c'est je fais ce que je veux pour moi, par moi. Et là, on a une liberté qui reconnaît notre nature humaine interdépendante. Quant à moi, je trouve cet aspect-là de définition de la liberté presque plus réaliste quant à ce que nous sommes profondément. Nous sommes interdépendants. Perrine disait tout à l'heure justement que le cadre de la loi, parce qu'il y a un interdit, ça stimule la créativité. Là, je trouve qu'on a une illustration justement comment un interdit ouvre des possibles au lieu de les refermer. Enfin, il enferme aussi, mais il oblige en quelque sorte à en inventer. Là où une loi qui autoriserait ou le suicide assisté ou l'euthanasie, finalement, vient fermer les possibles, vient clore en quelque sorte les possibles. Donc il me semble que dans le débat à venir, on a aussi intérêt à continuer à réfléchir sur c'est quoi la solidarité, c'est quoi l'autonomie, la liberté dont on parle. Et puis, dernier point pour conclure, est-ce que choisir sa mort, c'est un choix comme un autre? Non. Pour quelques raisons que je vais mentionner rapidement. La principale, c'est que contrairement à ce que laissent croire ces définitions de l'autonomie et de la liberté qu'on trouve dans la vie comme autodétermination, je me décide par moi-même et pour moi-même, contrairement à ce que laissent croire ces définitions, choisir sa mort par euthanasie ou par suicide assisté, ce n'est pas un choix qui ne concerne que soi. C'est dur à dire, on peut le dire 10 fois en répétant. Ce n'est pas un choix qui ne concerne que soi. Hein. Essayez. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un choix qui a un impact sur les proches. Et comme le dit de façon très juste, il y a aussi un dans la croix une discussion entre deux membres du CCNE, Régis Aubry et Annabelle Desgrés-Duloup. Ah oui, on n'a pas dit que dans l'avis du CCNE, à la fin, il y a des avis divergents exprimés, et que notamment un des points dans cet avis divergent qui me semble très important, qui est pas du tout idéologique, parce que qui est pas du tout centré sur des convictions, qui est vraiment objectif, c'est la remarque qui dit qu'en fait un changement législatif, ce n'est pas étayé scientifiquement. On n'a pas suffisamment d'études sur ce que produit dans une société la légalisation de l'euthanasie et ou du suicide assisté. Et elle remarque, elle, Annabelle Desgrés-Duloup, elle dit ceci: comment envisager une évolution du droit sans disposer d'un socle minimal de connaissances sur ces enjeux? Il me semble que oui, effectivement, c'est quelque chose qui semble aller de soi. Elle liste un petit peu les points sur lesquels il y aurait besoin d'avoir des éléments scientifiques. Elle dit l'offre des soins palliatifs, bon, encore ça, peut-être on a des éléments. Les inégalités d'accès aux soins, bon, on a quelques éléments. Les motivations des demandes d'aide à mourir. Voilà, là, effectivement, on a très peu d'études. Il y a celle qui était mentionnée tout à l'heure, qui distingue le désir de mort et les demandes de mort. C'est un point qui me paraît tout à fait important, intéressant. Et puis, Annabelle Desgrés-Duloup, elle dit l'impact sur l'entourage et l'impact sur les soignants n'a pas non plus été étudié, ou très peu. Donc l'impact sur les proches, les contraintes exercées sur les soignants, c'est quand même une liberté qui oblige. Alors, on répond, ben oui, mais il y aurait une clause de conscience. Oui, reste que, au nom de ma liberté, je demande à un autre d'agir sur moi ou pour moi. Donc même si ça laisse la liberté des individus, c'est quand même une liberté qui contraint. Et puis, un dernier point où l'exercice de cette liberté n'a pas d'effet que sur la personne qui l'exerce, c'est qu'il y a quand même un réel impact sur la société, ne serait-ce que parce que l'ouverture au suicide assisté ou à l'euthanasie obligerait de façon indirecte les personnes vulnérables, les personnes malades, voire les personnes vieillissantes en perte d'autonomie, à se poser la question de la valeur de leur vie au regard des personnes qui demandent le suicide assisté ou l'euthanasie. Ça oblige finalement à se demander est-ce que ma vie mérite d'être vécue. Alors quand on voit les mutuelles en France certaines mutuelles qui sont favorables à l'euthanasie, ça fait un peu frémir, quoi. Voilà. Et pour conclure, je voudrais simplement reprendre un mot de Robert Badinter. J'ai vu passer récemment sur les réseaux sociaux une captation vidéo de son audition en 2004 ou 2005, donc avant la première loi Leonetti. Vous savez, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui avaient été auditionnées, hein, de tous bords, de toutes professions. Et à ce moment-là, dans cette audition, Badinter disait avec sa fougue, sa conviction, il disait ceci: la vie, nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie. Alors évidemment, quand on attribue cette phrase à Badinter, on pense tout de suite à la peine de mort. Mais là, il parlait de l'euthanasie. Ah, mais ça m'a fait quelque chose quand même d'entendre cette formule qu'on peut tout à fait associer à cet homme, mais là, c'était sur l'euthanasie. La vie, nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie. Voilà, je trouve que choisir sa mort, non, c'est pas un choix comme un autre, ni pour soi, ni pour l'entourage, ni pour l'institution soignante, ni pour la démocratie elle-même. Mais enfin, on peut en discuter.
Merci beaucoup, Agatha. Avant de vous donner la parole pour réagir aux propos des uns et des autres, moi, je voudrais souligner une sensibilité à ce que vous avez dit à propos d'un certain effet d'imitation, c'est-à-dire voyant des gens demander à mourir, D'autres vont se poser la question, mais est-ce que ma propre vie mérite d'être vécue, ou est-ce que je suis un poids pour la société? Bon, j'ai été journaliste. En droit de la presse en France, il existe ce qu'on appelle des interdictions de publier. Et parmi ces interdictions, toujours en vigueur mais plus du tout respectées, il est interdit à la presse de faire mention du suicide d'un mineur. Parce que le législateur craignait que l'évocation du suicide d'un mineur crée un effet d'imitation, et cet effet existe. C'est bien réel. Alors j'ai une question pour lui. Est-ce qu'en Belgique, la promotion de l'euthanasie est permise ou pas dans la presse?
J'en ai aucune idée sur le plan légal. Après, dans la pratique, ça se fait. C'est-à-dire qu'en Belgique, vous allez trouver des mutualités, par exemple la mutualité chrétienne, pour ne pas la nommer, qui passe dans les maisons de retraite pour informer le patient de ce qu'on appelle ses droits. Et parmi les droits présentés, on présente l'euthanasie. Alors, je rappelle quand même que là aussi, en fait, on a un glissement sémantique. C'est-à-dire qu'on a dit en 2002 dépénalisation partielle de l'euthanasie. Et dans la modification législative de 2020, on parle de droit à l'euthanasie. Juridiquement, c'est faux. Sociétalement, c'est juste. Parce que le droit à l'euthanasie s'est installé en Belgique, même si juridiquement c'est faux. Les gens pensent qu'ils ont un droit à le demander, c'est exact, mais ils n'ont pas droit de l'obtenir. Et ça c'est majeur, ça c'est vraiment majeur.
Louis Miranda, est-ce que vous avez des réactions au propos de nos deux autres interlocuteurs? Non. Alors, il va être temps de passer aux questions de la salle, et là, je demande l'assistance complice de François Huvé, qui aime bien gérer les débats avec la salle, donc je vais lui laisser ma place.
Et moi, j'ai une question pour la salle. J'ai dit qu'il y avait une dépénalisation partielle de l'euthanasie en Belgique. Si vous ne respectez pas les conditions, quel crime avez-vous commis, à votre avis? Quel crime ai-je commis si je n'ai pas respecté les conditions pour pratiquer une euthanasie? Un assassinat, exactement. Voilà, comme ça clarifie un peu les choses.
Alors, cela étant, juste si on rigole un peu avec la Belgique, savez-vous ce qui est indiqué dans le certificat de décès lorsque quelqu'un est mort suite à une euthanasie? Mort naturelle. Ça pose question aussi. On connaît votre humour, hein.
Voilà, donc effectivement, c'est le temps de poser des questions. Donc un micro circule, la tradition c'est de prendre deux ou trois questions en même temps. Donc il y a déjà une main qui se lève au premier rang, allez-y.
Oui, je me permets d'intervenir. J'ai été cancérologue pendant 40 ans et je soignais des malades métastatiques. Alors à Gustave Roussy et puis après à René Huguenin. Donc j'ai une certaine expérience des phases terminales. Ce qui m'a frappé... C'est l'ambivalence des malades. Je me rappelle d'un jeune malade, médecin, cancérologue, il voulait avoir absolument la vérité et cesser tout traitement. Et puis, quand il a eu son cancer bronchique, le malheureux, eh bien, il a demandé la dernière drogue, l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a eu une attitude complètement inverse de ce qu'il proposait avant. Je me rappelle aussi de malades qui vous disaient « je vais mourir » et en même temps « vous verrez docteur » dans la même phrase à peu près « vous verrez docteur quand ça ira mieux, je vous emmènerai un bon restaurant ». Donc il y a une ambivalence considérable, sans parler aussi des surprises. Je me rappelle aussi d'une malade qui a eu une leucémie extravagante et plus de famille, on avait dit la pauvre fille. Bon. c'est fini. On aurait presque, elle occupe un lit, j'allais dire, abusivement. Eh ben, elle vit toujours. Elle m'envoie toujours un paquet de cigarettes. Bon. Donc, tout ça, c'est une incertitude absolument considérable. Dans la pratique, j'ai vu une malade qui, elle est pas mal, mais elle voulait absolument pas de chimiothérapie. Alors, à un moment, on avait épuisé toutes les autres joies de l'hormonothérapie, mais je lui dis, oh, écoutez, on va passer à l'hormonothérapie. Ah, docteur, vous avez dit que vous me suivrez jusqu'au bout, vous allez me faire la piqûre. Je lui dis, vous allez rentrer à l'hôpital, on va vous faire une chimiothérapie qui fait pas tomber les cheveux, etc. Je vais la voir le soir, après ma consultation, toujours entendu, mais je lui dis, je vous verrai demain matin. Eh bien, vous voulez absolument mourir. Et le lendemain matin, le ciel m'a-t-il entendu, eh bien, elle était morte. En dehors de ce cas, on a fait des tas de sédations. J'ai jamais vu de problème. On a interrogé les soignants, y compris les agents d'entretien, parce que les malades parlent aux femmes de ménage d'une façon totalement différente qu'aux médecins et qu'à la famille. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il faut avoir absolument l'avis de tout le monde. Donc, alors, c'était une époque où on disait moins la vérité aux malades. Hein. C'était dans les années 80, 90. Donc, le public a changé. Mais je pense... Alors, pour ce qui est de la cancérologie, je ne vois vraiment pas... là, je vois les inconvénients d'une loi, mais je ne vois vraiment pas... son intérêt, en l'occurrence. Voilà ce que je voulais vous dire, un témoignage de 40 ans de phase terminale. Ah si, je voulais vous dire aussi un petit mot pour les femmes. Oui, c'est terminé. Parce que quand vous envoyez un malade, avant il n'y avait pas de soins palliatifs. Donc on suivait les malades depuis la consultation jusqu'à la phase terminale. Donc il connaissait le personnel, il connaissait les médecins. Il est certain que vous faites un travail admirable à Jeanne Garnier, et ça c'est, puis après une belle maison, on fait tout ça, moi j'ai envoyé tant de malades là. Mais que cette rupture de soins, d'équipe qui prend en charge, pose peut-être un problème. Alors effectivement, parce que quand on dit aux gens, vous allez aller à Jeanne Garnier, c'est une façon de leur annoncer qu'il y a une forte probabilité que ça se termine pas très bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas d'avis sur la question parce que je l'exerçais à l'époque où il y avait uniquement Rueil Malmaison plutôt et vous bien entendu. Voilà.
Voilà, merci de ce témoignage. On va reprendre une autre question. Merci de pas être trop long. Il nous reste plus qu'un quart d'heure, donc. Vous voyez que si on prend le maximum de questions, donc il y a une question au deuxième, troisième, au quatrième rang.
Merci beaucoup. J'ai été très frappé, docteur Garnier, par ce que vous avez dit sur l'interdit qui vous protège. C'est comme ça que je restitue ce que j'ai entendu. Je développe l'interdit. Face à un interdit, on doit en parler. Enfin, j'ai l'impression que l'interdit fait parler, puisque quelque chose d'objectif. Bon, on en parle, on avise, on cherche ensemble, on réunit la famille, on discute. Mais en levant l'interdit, j'entreaperçois que l'individu est autorisé à se murer dans son choix. Et ce rapport, donc peut-être la question se déplace plutôt vers Agatha, entre l'interdit qui nous fait basculer dans la parole, dans la recherche d'une solution, pour en parler de recherche éthique, et si, en l'absence de tout interdit, en l'occurrence de celui-ci, est-ce qu'on se retrouve pas dans une parole barrée où il y a plus possibilité de discuter, voilà, notamment de discuter de la mort?
Merci. Encore 2, 3, 4 rangs derrière.
Je vous remercie beaucoup pour tout ce qui a été dit, et en particulier sur l'expérience de la Belgique, dont on a beaucoup parlé. Mais je regrette que face au titre « Choisir sa mort », on n'ait pas débattu de la différence qui, pour nous médecins, et je pense pour vous, madame, c'est pas pareil le suicide assisté et l'euthanasie. Et un bon journal comme La Croix, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, a laissé entendre qu'en Italie, pour limiter les dégâts et échapper à l'assistance au suicide. On a rencontré les médecins allemands et les médecins autrichiens pour éviter l'euthanasie, parce qu'en Allemagne, pour des raisons qu'on comprend, l'euthanasie est complètement bannie, eh bien, ils sont passés sur le suicide assisté. Donc j'aurais aimé qu'on discute du suicide assisté. Alors je sais bien que la soirée est courte, mais ça me paraît une question fondamentale, parce que c'est une ligne sur laquelle nous, médecins, on a l'intention de se battre.
Voilà, merci pour ces interventions. Alors, qui prend la parole et dans quel sens? Parce qu'il y a plein... Questions sont très...
Moi, je dis juste une chose, parce que j'aime beaucoup parler. Mais peut-être que vous voulez dire d'abord quelque chose, docteur.
Non, allez-y.
Je dis une chose, parce que c'est court. Vous pouvez vous limiter au suicide assisté, mais ça ne sera qu'une première étape. Pour toutes les lois de ce type-là, fin de vie, début de vie, avortement, etc., c'est toujours la même technique. C'est la technique du saucisson. Si le saucisson est trop gros pour que vous le faire avaler en une fois, on le coupe en plusieurs. Et une fois que vous avez bien mâché le premier morceau, on vous fait passer au deuxième. Soit sur un plan législatif, soit dans la pratique. Donc vous pouvez vous limiter au suicide assisté. Pour vous, médecin, je comprends que ça a une vraie différence. Parce que la question, c'est qui pose l'acte. Mais pour la société, pour l'acceptabilité de l'acte, ce n'est qu'une étape vers la suite. Si vous voulez, le poison a déjà été inoculé. La question, c'est dans quelle dose?
Alors, pas partout.
Oui, ça,
ce n'est pas le cas partout. Ça n'est pas le cas ni en Suisse ni en Oregon, qui ont deux systèmes extrêmement différents de suicide assisté. Alors, je dis pas ça pour défendre le suicide assisté, mais pour dire que le système du saucisson, il marche pas partout. Tu veux dire un mot là-dessus, Perrine?
Non, mais c'est pareil. Enfin, je pense qu'il faut pas. La Belgique est passée directement à l'euthanasie, alors que la Suisse reste. Et il y a même, enfin, je crois qu'ils ont essayé d'élargir la loi et que ce n'est pas passé.
Question de temps.
Au contraire, voilà. Je pense qu'il faut rester. Et je suis d'accord que c'est totalement différent et que quand on est médecin, l'euthanasie est forcément et partout fait par un médecin, le suicide assisté. Le médecin n'est que prescripteur, ce qui est totalement différent. Alors là, je suis. Pour répondre à votre première question sur la rupture d'équipe, je dirais que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais il y a aussi des patients qui sont contents de changer d'équipe. Je vais être honnête. Et puis surtout, on a un environnement qui est autre. Et quelquefois aussi, la rupture avec l'oncologue, alors on reste... de plus en plus en lien, je pense, avec les oncologues. Et on espère qu'avec la téléconsultation, avec on arrive à maintenir le lien avec les équipes antérieures. Voilà. L'interdit, je reviendrai sur l'interdit. Oui, l'interdit protège. Et si on lève l'interdit, moi, j'ai peur que les patients n'osent plus parler. Et moi-même, que vais-je dire? Je vais avoir peur d'être face à une demande de mort, voilà, avec une loi derrière moi. Je ne sais pas ce que je dirais, mais je pense que c'est important.
Et je pense que, juste pour aller dans ce sens-là, je pense que dans le cadre actuel de la loi, on peut vraiment travailler dans la relation avec le patient à faire une distinction, comme le disait Miranda tout à l'heure, un peu entre un désir de mort, une demande de mort qui, derrière laquelle, peut être une demande d'attestation que ma vie vaut encore la peine d'être vécue, ou une volonté de mourir. Et en fait, ce sont trois choses différentes que dans le langage courant, on assimile beaucoup trop vite. Le risque avec un cadre législatif qui saute, c'est qu'il y ait confusion entre expression d'un désir que ça se termine, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour accélérer, ou... je suis adhérent à telle association et au nom de ma philosophie, je vous demande d'accélérer les choses. Alors, aujourd'hui, on a un cadre qui permet de travailler à distinguer ça. Sur la question du suicide assisté, donc oui, rapidement, en Suisse, C'est un modèle entre guillemets associatif. Ce sont des associations qui font l'accompagnement vers un suicide. Ou encore une fois, hein, c'est la personne qui prend elle-même le produit létal. Il y a des films français qui ont montré le modèle suisse. Il y a, je n'arrive jamais à me souvenir du titre. Il y a Printemps dans le titre. C'est pas un si beau printemps, c'est quelque chose comme ça. Et puis, et il y a récemment passé. Tout s'est bien passé, que je trouve très intéressant comme film, parce que pour le coup, on voit l'impact sur les proches. C'est les filles qui sont dans la sidération, puis on voit aussi ce profil de personne qui veut être vraiment dans la maîtrise, qu'il a été de sa vie, qu'il a été de sa proche, de ses proches, et qui veut l'être de sa mort. Et puis le modèle en Oregon, c'est très différent. Alors il y a aussi un cadre, une temporalité, que je connais pas du tout par cœur, hein, mais où la personne doit voir plusieurs médecins plusieurs fois, enfin sur une temporalité assez longue. Et là, en fait, le process, c'est que un médecin délivre une ordonnance, la personne peut l'utiliser ou pas, la personne peut aller chercher le produit en pharmacie et peut s'en servir ou pas. Et en fait, alors il y a des variations hein, sur le pourcentage de personnes qui, entre le moment où ils ont eu l'ordonnance et le moment où ils utilisent ou pas le produit, il y a des années où c'était 30% qui utilisaient le produit. Les derniers chiffres, soit c'était plus haut, c'était autour de 55%, quelque chose comme ça. Ah, mais on est vraiment dans des modèles différents. Et ni la Suisse, ni l'Oregon ne poussent à ma connaissance, vers l'euthanasie. Et en tout cas,
Enfin, je suis tout à fait d'accord avec dire. Et juste dire aussi que derrière, c'est le rapport du CCNE qui, derrière l'aide active à mourir, regroupe les deux voies sans les séparer. Enfin, je veux dire, il parle pas de l'euthanasie ou du suicide assisté. Il parle d'une aide active à mourir.
Oui. Enfin, mais quand même, ils disent qu'ils sont favorables au suicide assisté. Et à un moment donné, la vie, j'allais dire, injecte l'euthanasie, fait arriver l'euthanasie pour des personnes qui ne pourraient pas faire elles-mêmes le geste de s'administrer tel ou tel produit létal. Donc c'est vraiment très restreint. Alors je suis d'accord que quand on ouvre ça, on risque de l'ouvrir... Mais le moment où il est question d'euthanasie dans la vie, c'est uniquement pour ces situations-là. Reste que l'expression « aide active ou aide médicale à mourir » est extrêmement ambiguë parce qu'elle peut englober les deux. Ce qui était le cas d'ailleurs dans le projet de loi Falorni qui avait été présenté à l'Assemblée nationale en avril dernier, ou l'avril de l'année dernière, je ne sais même plus.
Si, c'est avril dernier.
Voilà, où il y avait cette expression d'aide active à mourir qui englobait un peu tout et n'importe quoi. C'était très, très, très flou.
Alors, reprenons une série de questions. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée au milieu. Au milieu, d'abord. Levez la main.
Merci de toutes ces exposés. Je voulais revenir un instant sur cette dualité suicide assisté et euthanasie. Alors, une première chose, c'est que en Suisse, à ma connaissance, le gouvernement fédéral n'a pas voulu s'occuper de cette question de l'euthanasie, du suicide assisté, de la fin de vie, etc. Il a confié ça à des associations, alors sous un couvert médical, à condition que le médecin réponde aux recommandations de l'Académie suisse de médecine. Point à la ligne. Et les associations, vous connaissez la suite. Alors là, j'ai eu la perception, bon, j'ai fait partie du CCNE dans son temps, et notamment pour la vie de 2013-2014. Je vous inviterai au passage, d'ailleurs, puisque vous avez évoqué cette difficulté entre ces deux termes, et le terme de aide active à mourir, qui vient un peu couvrir le tout, si vous ne l'avez pas, je vous le passerai, à lire les quelques lignes de la conférence citoyenne de cette époque, de 2013, c'est absolument effarant dans la construction que vous imaginez. On arrive en partant du suicide à l'euthanasie, en partant de l'euthanasie à ce que vous avez appelé tout à l'heure de son juste nom. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu la perception que dans ce choix, le CCNE actuel a voulu un peu, au moins dans un premier mouvement, épargner ou limiter l'effet du médecin, sinon de donner l'autorisation, mais pas d'être l'acteur direct de la mort, en laissant un choix un peu ultime aux patients, comme ça a été évoqué. Alors, je pense que les deux sont quand même très liés et que de l'un à l'autre, le passage se fera à un moment donné inéluctablement.
Merci. Alors, une autre main s'était levée sur le près de vous.
Je ne sais pas quel est votre avis à ce sujet.
Il y a le fond de la salle aussi.
Oui.
Merci beaucoup à chacun des intervenantes et des intervenants. D'abord, je souhaitais évoquer auprès de vous la sédation profonde jusqu'au décès. Il se trouve que j'ai accompagné ma mère. Elle était d'abord en soins aigus, puis elle est tombée dans le coma. Et j'ai demandé à rester auprès d'elle jour et nuit, donc l'hôpital a accepté. Et j'étais donc en sa présence dans le coma. Et le médecin, au bout de 3 jours et 2 nuits, est venu me dire à plusieurs reprises avec insistance qu'elle souffrait dans le coma et qu'il était vraiment préférable de décider d'une sédation profonde jusqu'au décès. Il a été très insistant et a toujours utilisé cet argument qu'elle connaissait beaucoup de souffrances et qu'il fallait abréger ses souffrances. Donc j'ai cédé et j'ai dit oui. Et il y a eu la mise en place de la sédation profonde, et il y a un avant et un après. Il y avait une présence dans le coma, et après, dans la sédation profonde, il n'y avait plus aucune présence. Je ne sais pas où elle était partie, mais elle était partie très très loin. Là, j'ai eu vraiment la connaissance d'avoir fait une transgression, c'est-à-dire d'avoir décidé de quelque chose qui ne doit pas être fait, c'est-à-dire tu ne tueras pas. C'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, mais je pense que quand je vous le dis, vous comprenez ce que je veux dire. Vous le savez déjà, donc je ne dis que des choses que vous connaissez déjà. Moi, je ne le savais pas. Et j'ai entendu ensuite le médecin et l'aide-soignante dire un peu, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui laissent les agonies interminables alors que c'est irréversible et que c'est foutu. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est quelque part malhonnête dans la façon de présenter. Et comme j'avais plus de famille, j'étais seule en tête à tête avec ma mère et le médecin. Et là, il y a un manque, là, de ce point de vue-là, déjà d'information. Parce que si j'avais su ce mystère de la vie qui fait que la présence dans le coma, je ne le savais pas, je l'ai su après, une fois qu'elle n'y était plus. Et voilà, toutes ces choses. Je vous remercie.
Merci. Je crois qu'il y avait encore une main qui s'est élevée. Alors, il y en a plusieurs dans le fond.
Oui, bonjour. Je ne sais pas d'où viennent les convictions de M. Macron, sachant que son père et sa mère sont médecins, mais voilà. Et sinon, je pense qu'il y a une énorme particularité, c'est pour les malades qui ont des métastases et les malades qui souffrent atrocement des douleurs monstrueuses. Moi, il me semble qu'il faudrait faire un pan à part pour les malades, ces malades-là, hospitalisés ou en fin de vie, suivis par leur médecin généraliste depuis des années, éventuellement depuis 20, 30 ans. Voilà, il me semble qu'il faudrait faire un compartiment à part. Merci.
Voilà, alors, la parole est à vous.
C'est à moi. Alors, sur la sédation profonde et continue, c'est très difficile d'intervenir suite à ce que vous avez dit, parce qu'il y a des mots qui, quand on est dans le coma, ce que provoque une sédation, c'est de mettre quelqu'un dans le coma, c'est-à-dire qu'on le fait dormir, hein, vraiment. Je crois qu'il faut surtout pas changer les termes, une sédation, l'intention du médecin est vraiment de soulager, mais effectivement, il n'y a plus de relation possible après. La décision, ce n'est pas vous qui l'avez prise, c'est le médecin. C'est vraiment toujours une décision médicale, même si c'est pris après avis de la famille. Après, je ne peux pas, voilà. Mais c'est toujours douloureux. Hein, on voit que c'est jamais quelque chose de simple et que ça manque probablement d'avoir parlé, d'avoir expliqué, de vous avoir expliqué pourquoi et comment avant. Voilà ce que je peux dire. La deuxième question, c'était sur les douleurs. Je crois que, enfin, tout le topo, voilà, enfin, quand on a des douleurs, on parle de souffrance et qu'on n'arrive pas à les traiter, on parle de souffrance réfractaire. Après, dans la prise en charge palliative, on fait tout pour essayer de soulager les personnes. On n'y arrive pas toujours. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'on peut proposer une sédation. On a quand même beaucoup de moyens médicamenteux et autres pour essayer de soulager les patients. On y arrive la plupart du temps. Voilà.
Je ne sais pas si Miranda, qui n'a pas encore repris la parole, a des choses à ajouter là-dessus, à partir de son expérience. Non. Yata, tu petit mot sur. On a peut-être le temps encore. En principe, il est 20h45, donc nous avons atteint la fin, mais je voudrais frustrer personne. Il y a peut-être encore. Allez, une main qui se lève, on va, vu l'importance de la question, donner un petit délai de grâce.
Juste une question qui se situe en amont de tout ce qui a été évoqué ce soir. Il a été question, vous avez dit, qu'on pouvait arrêter les machines, une machine. Et moi, je voudrais parler de tout ce qui est acharnement, comment ça se situe, et comment situer ce qu'on appelle les directives anticipées, que presque tous, je suis sûre, dans cette assemblée, avons remplies. Dans la mesure où ça semble effectivement un peu libérant, ça a quelque chose de très, on est actif et on refuse tout ce qui est, mais ça semble quand même être un appel à refuser l'acharnement. Or l'acharnement, ça se présente de plein de façons différentes. Voilà.
Je peux répondre rapidement. Non, je n'ai pas écrit directive anticipée, car depuis que je suis médecin en soins palliatifs, je me dis que bien portante, je ne sais en aucune façon comment je réagirais si j'étais malade. À part si j'avais une maladie grave, comme la maladie de, par exemple, la maladie de Charcot, là, je pourrais exprimer des désirs. Le malade dont j'ai parlé, là, c'est un malade qui vivait avec un respirateur. Et qui vivait bien sa maladie avec ce respirateur. Peut-être que quelqu'un d'autre ne le vivrait pas bien. Je crois que c'est vraiment l'unicité de la personne, mais son droit, et ça son droit est reconnu depuis longtemps, bien avant les lois de Leonetti, c'est de dire non, je ne veux plus de ce traitement, et moi, mon devoir, c'est de l'accompagner. Et c'est ce qu'on s'est assuré auprès de lui, que si sa décision était celle-là, on serait là, pour l'accompagner. Voilà. Mais les directives anticipées, c'est un sujet qui est vaste. Mais voilà. Et je réponds à titre personnel.
Voilà, mais nous allons nous arrêter là pour cette soirée. Vous voyez la densité du contenu et l'importance des sujets. Nous proposerons donc le mois prochain une soirée d'éthique publique, probablement sur le thème de l'Ukraine. C'est pas encore tout à fait décidé, mais le retour de la peur nucléaire, vous voyez, après, restons dans la perspective apocalyptique. Le retour de la peur nucléaire, donc ce sera le premier mardi de novembre. Le 8. Ah oui, bah oui, le premier mardi c'est à Toussaint, oui, bien sûr, le 8 novembre. Donc merci de votre présence, merci par avance de votre participation. Les boîtes qui sont à la sortie sont à votre disposition. Bon retour, bonne soirée. Voilà. C'est comme ça que vous répartissez.